J'ai décidé de retenir un titre qui sera un peu un fil conducteur, c'est le rapport qu'il y a entre la barbe et l'identité, ou les identités, puisque l'identité, c'est ce qui désigne en quelque sorte le même, et donc la barbe désigne un autre qui est le même. Alors quelles peuvent être ces identités que l'on peut essayer de traquer? C'est tout d'abord l'identité familiale, car il y a souvent un rapport entre la filiation et la barbe. C'est très souvent, pour des raisons à la fois qui tiennent au rapport entre la barbe, la reproduction et les apparences, il peut y avoir dans la barbe un critère d'affiliation familiale. C'est d'autre part le rapport que la barbe entretient avec l'identité sociale, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe défini par sa position dans la société, voire éventuellement sa profession. Ou alors des gens qui s'identifient socialement par le fait que justement ils refusent de porter la barbe. Et donc la barbe a aussi un rapport aux identités religieuses, voire ethniques. Enfin, religieuses et ethniques. Enfin, le dernier point, c'est évidemment le rapport que la barbe peut entretenir avec les identités sexuelles, les identités de genre. On pourrait même essayer, sans que ce soit trop anachronique, essayer de voir dans quelle mesure la barbe peut définir certains types de sexualité, ou est-ce que cette question est pertinente ou pas pour l'Ancien Régime. Alors, je me suis intéressé à la barbe, je ne vais pas vous raconter pourquoi je me suis intéressé à la barbe. Vous savez, les historiens, en général, écrivent des... Vous voyez, ce n'est pas un intérêt personnel, c'est simplement quand j'avais écrit un livre sur les humanistes et j'avais trouvé le texte d'un humaniste italien qui s'appelle Valeriano, qui avait écrit un Pro Sacerdotum Barbis. Je me suis dit, tiens, un jour, à mes heures perdues, je lirai ça. Et quand j'ai décidé de me plonger dans ce texte, je me suis aperçu qu'il faisait écho à d'autres choses dont je vais vous parler, c'est-à-dire j'avais trouvé des textes, un édit de François Ier sur la barbe. Bon, donc on ouvre des dossiers et puis à un moment donné on décide de traiter vraiment le dossier et puis ça vous occupe pendant deux ou trois ans. Alors en fait la barbe m'intéressait parce que c'est un phénomène lié à la Renaissance. La Renaissance, je dirais, du XVIe siècle. En effet, à la fin du Moyen-Âge, on ne porte plus la barbe. L'ensemble de la société est une société glabre ou mal rasée. Et les rares personnes que l'on voit porter la barbe en font en fait un signal individuel pour exprimer certains types de comportements. Par exemple, celui qui part en pèlerinage va se laisser porter la barbe. C'est en quelque sorte l'expression d'un vœu. Ça vaut aussi pour le cas... d'un des princes rebelles contre Louis XI, qui avait dit que tant qu'il n'aurait pas le roi, eh bien, il se laisserait pousser la barbe. Donc, il peut y avoir un usage votif et ponctuel de la barbe, tant que finalement, le vœu n'est pas réalisé. Donc, le vœu peut être signifié, exprimé par le port de la barbe. Le mécontentement aussi, le malcontentement nobiliaire peut s'assortir de la pousse de la barbe. Et en général, ce mécontentement est lié aussi à une tristesse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en deuil, lorsque Charles le Téméraire est vaincu une première fois par les Suisses, eh bien, il est tellement déprimé qu'il se laisse complètement pousser la barbe. Lorsque le pape Jules II perd la ville de Bologne en 1510, eh bien, il décide de se laisser pousser la barbe. C'est à la fois l'expression de son mécontentement et en même temps, c'est perçu comme le signe d'un vœu, puisque tant qu'il n'aura pas repris en quelque sorte la ville aux Français, eh bien, il ne se rasera pas la barbe et on nous dit, les chroniqueurs nous disent qu'il est hirsute comme un ours. Et de fait, à partir du moment où il reconquiert Bologne, que les Français sont chassés d'Italie, eh bien, il laisse tomber la barbe. Et d'ailleurs, dans les représentations de la Chambre des Signatures au Vatican, qui sont peintes par Raphaël dans ces années-là, on voit très bien comment le pape porte barbe et son successeur, Léon X, est représenté comme glabre. Alors, la barbe, en fait, ne commence à se généraliser dans la société européenne qu'à partir des années 1520, et elle va finalement perdurer, la pilosité faciale va perdurer jusqu'au milieu du XVIIe siècle, avec un temps pour les grandes barbes, ensuite un retrait pour des barbes plus courtes et puis uniquement la moustache. Mais enfin, on peut dire qu'à partir des années 1670, il n'y a plus de barbe ni même de moustache. Ce qu'on appelle la moustache à la royale, au début du règne de Louis XIV, qui est un simple liseré, disparaît totalement. Alors, je voudrais essayer de me poser la question de savoir quelles sont les identités qui sont en jeu dans cette adoption de la barbe, et finalement, qu'est-ce que cela induit du point de vue des comportements culturels, que l'abandon d'un signe individuel, temporaire, et l'adoption de quelque chose qui devient un marqueur permanent d'identité et d'identification des individus. Donc je verrai tout d'abord ce qui concerne le rapport entre la barbe et l'identité sociale, puis dans une seconde partie, je verrai le rapport entre la barbe et le genre, et enfin, dans une dernière partie, je verrai ce qui touche le rapport entre la barbe, la religion et la race. Commençons tout d'abord par la barbe et l'identité sociale. Lorsqu'on a commencé à écrire des histoires de la barbe à la fin du XVIIIe siècle, je ne dirai pas pourquoi on commence à écrire ces histoires de la barbe à la fin du XVIIIe, au moment où finalement elle a totalement disparu des visages depuis longtemps, mais il est fréquent, et les polygraphes du XIXe reprendront cette idée, de dire que la barbe se diffuse pour des raisons anecdotiques. François Ier, en 1521, aurait joué à l'époque de Noël avec de jeunes courtisans comme lui, et puis il aurait pris un tison sur la figure, et il aurait fallu lui raser le crâne pour voir comment était la plaie, et en compensation, il se serait laissé pousser la barbe. C'est en général le genre d'histoire anecdotique que l'on relate. Or, en fait, François Ier, tout d'abord, s'était laissé pousser la barbe dans ces années-là, parce quelques années auparavant, en 1519, de manière tout à fait temporaire, comme vœu préludant à la rencontre du drap d'or. C'est-à-dire aussi bien Henri VIII que François Ier avaient décidé de se laisser pousser la barbe jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. On se rase au moment où la rencontre a lieu. En fait, il faut se départir de cette idée que c'est un individu qui lance la mode. Cette idée, elle a été défendue par Bodin dans la controverse de Malès III, il dit à un moment donné « La preuve que les rois lancent les modes, c'est que François Ier s'est laissé pousser la barbe et que les sujets ont fait la même chose. » Bon, c'est faux parce que, tout d'abord, la barbe a commencé à se développer, non pas sous l'effet d'un prince, mais sous l'effet des milieux courtisans italiens. C'est dans les années 1515-1516 que l'on voit dans les cours italiennes, et le courtisan de Castiglione d'ailleurs débat de la question du port de la barbe, que l'on voit se développer cette barbe qui, en quelque sorte, fait le gentilhomme. Vous en avez une expression dans le fait, par exemple, que Raphaël peint Castiglione en 1518, et Castiglione n'est pas du tout un petit marquis poudré du XVIIIe siècle, c'est un barbu avec une épaisse barbe noire. Pourquoi est-ce que dans ce milieu italien la barbe se développe? C'est lié au contexte de l'Italie de ces années-là, qui est à la fois une terre travaillée par la pratique des lettres et en même temps frappée par la défaite militaire. Et beaucoup accusent la plume, en quelque sorte, d'avoir émasculé l'épée. Et c'est une manière dans les milieux, et c'est l'objet du débat du courtisan, enfin c'est un des objets, c'est de montrer que l'on doit être, pour être un bon gentilhomme, il faut pratiquer les lettres, savoir danser, connaître son latin, son grec, savoir la musique, etc. Bref, être l'homme en quelque sorte parfait, et en même temps rester homme avec cette capacité en quelque sorte virile que manifeste là-bas. Et donc c'est à la suite de cette mode italienne finalement, qui n'est pas du tout finalement une mode imposée par les vainqueurs aux vaincus, mais une mode adoptée par les vainqueurs espagnols ou français par rapport aux vaincus italiens, que on voit la mode de la barbe se développer dans les années 1520-1525 dans les cours françaises, la cour également d'Espagne, de l'empereur, et la cour anglaise. Alors, la barbe, lorsqu'elle est adoptée, c'est vraiment une mode, et c'est une mode adoptée par les jeunes. Il est courant d'associer la barbe à la vieillesse. Ce n'est pas le cas, puisque l'on constate que ce sont très souvent les hommes les plus âgés, qui sont les plus réticents en ce début du XVIe siècle, à adopter la mode de la marbre, qui au contraire est épousée par les plus jeunes. Et vous avez donc un certain nombre de triptyques qui vous montrent le père, ses enfants, c'est les enfants qui sont barbus, et c'est le père qui reste fidèle, en quelque sorte, à la tradition de sa jeunesse, et qui reste glabre. C'est donc que ça n'est pas un signe d'âge lorsque la barbe se développe, c'est une mode, en quelque sorte, liée à l'appartenance curiale. Cette mode, elle est adoptée par les courtisans, elle est refusée par certaines institutions. Le milieu des magistrats, effectivement, reste réticent à l'adoption de la barbe. Il y a même des décisions, par exemple, du Parlement de Rouen, qui interdisent le port de la barbe aux avocats dans les années 1536. Il faudra attendre 1544 pour que le Parlement de Rouen accepte des avocats là. Mais c'est une tradition qui perdura, puisqu'au XIXe siècle encore, on a des débats à la Cour de cassation pour savoir si les magistrats doivent ou non porter des barbes. Il est probable que pour les parlements qui se considèrent comme les héritiers de la curia regis et qui sont en même temps, en quelque sorte, les défenseurs de la coutume immémoriale, cette mode adoptée par le monde de la Cour va à l'encontre de cette idée que les magistrats se font de leur métier d'être les conservateurs des coutumes. Mais vous savez, une mode qui dure a tout pour devenir à son tour une coutume, et on voit progressivement les parlementaires, à partir des années 1550, eh bien, en quelque sorte, accepter le port de la barbe. On nous dit simplement, dans le livre des parlements de La Roche-Flavin, qu'il serait bon que les magistrats, simplement, ne se teignent pas la barbe, parce que la justice implique la vérité, en quelque sorte, et que la teinture est une forme, en quelque sorte, de fraude, et qu'on demande aux magistrats d'être sérieux, et non pas d'être des galants ou des muguets. En fait, la barbe, adoptée dans les milieux de cour, que les parlementaires vont aussi adopter, est très vite un symbole d'autorité. Symbole d'autorité qui peut avoir un enracinement religieux. La représentation traditionnelle des pères de l'Église, c'est la barbe. Alors, problème, la barbe du Christ. La barbe du Christ, en fait, circule à l'époque un texte qui est un apocryphe, qui est une lettre d'un proconsul de Palestine, écrite au Sénat romain, et qui nous décrit l'âge du Christ, enfin la personne du Christ, et qui nous dit qu'il avait une barbe qui tirait un peu vers le jaune, vers la noix aveline. Et ce texte circule et donc pose l'idée que cet homme qui est crucifié à l'âge de 33 ans, eh bien, avait une barbe, non pas une grande barbe, mais enfin que le Christ roi était lui-même barbu. Et il y a des analogies, par exemple, j'ai essayé de faire la comparaison avec les représentations de Philippe II, qui se fait souvent représenter avec une barbe dont la couleur n'est pas franchement une couleur noire, qui est une barbe relativement éclaircie, tant au point de vue de la densité. Et il y a, notamment chez ce texte qui va avoir un grand écho en Europe et qui sera traduit d'un médecin, Huarte, il y a une analogie explicite qui est faite entre la barbe du Christ et la barbe de Philippe II. Donc, modèle politique qui emprunte au vocabulaire religieux, qui emprunte évidemment au vocabulaire, ou plutôt aux galeries des grandes figures politiques. Bon, pour les figures religieuses, j'ai oublié le Moïse de Michel-Ange, mais ça, on ne développera pas ici. Mais la figure de Charlemagne, l'empereur barbu, étant entendu que les empereurs romains étaient pour la plupart les 12 Césars, les Julio-Claudiens sont glabres, il faut attendre les Antonins pour avoir des empereurs barbus. Donc il y a cette idée que la barbe fait l'autorité, et cette autorité est à la fois politique, elle est également scientifique. J'ai retrouvé un certain nombre de dissertations, et on trouverait ça en Italie, dans l'Académie des Inconnus à Venise, ou par exemple chez Théophraste Renaudot, cette idée que la barbe sied aux gens de science, aux universitaires. Par exemple, un bon médecin se doit d'avoir une barbe. Alors vous avez des théories sur quelle doit être la longueur de la barbe. Il faut qu'il ait une belle barbe parce que ça témoigne d'une expérience, d'une autorité. En même temps, il ne faut pas que sa barbe soit trop négligée, il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que sinon on va désespérer le malade parce qu'une barbe trop longue témoigne d'un état de déréliction et ça veut dire que le médecin est déjà convaincu que son malade va mourir. Donc il y a véritablement toute une... c'est un sujet assez sérieux que d'écrire des dissertations sur l'autorité des barbes. Alors, ce qui m'a intéressé, donc, après avoir constaté que la barbe se diffusait dans le milieu curial et se diffusait, je dirais, par une partie du haut de la société, ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir qu'il y avait aussi toute une législation à la fois policière et somptuaire qui se mettait en place dans ces années 1520. La première occurrence, je l'ai trouvée pendant une année qui m'occupe beaucoup, qui est l'année de Pavie. Le Parlement de Paris, ou plus plutôt la Chambre des Vacations, s'inquiète au printemps 1525, alors que le roi vient d'être pris, qu'il y a des troupes qui refluent vers la France et que d'autre part les frontières éventuellement de Picardie sont menacées, s'inquiète de voir proliférer dans Paris des gens avec de longues barbes. Et on demande donc là, il ne s'agit pas là de courtisans, la cour n'est pas à Paris, elle est à Lyon, enfin pour ce qu'il en reste, et il est donc demandé à ce que les barbus qui traînent dans Paris se rasent rapidement. L'année d'après, en 1526, j'ai publié ces textes dans le livre, dans les archives municipales de Dijon, j'ai trouvé mention en 1526, en 1528 et en 1534 de l'idée que des gueux ou des malfaiteurs se déguiseraient au contact des soldats, et notamment des reîtres allemands, qui la seule catégorie de la population qui portait la barbe à la fin du Moyen-Âge, c'était les Suisses ou c'était les mercenaires allemands, les reîtres. Et donc, au contact des troupes qui ont été dans les environs de Dijon, des malfaiteurs se déguisent en soldats avec des grandes barbes, puis se rasent, leur mauvais coup en quelque sorte accompli. Et donc, on voit très bien, à travers ces dispositions que j'ai trouvées à Paris et à Dijon, j'aurais aimé en trouver ailleurs, mais bon, il faudrait dépouiller tous les registres municipaux, et puis on ne les a pas pour ces années-là dans toutes les villes, mais enfin, pour l'instant, j'ai trouvé Paris et Dijon. Il y a cette idée que, finalement, la barbe est quelque chose qui ne relève pas de l'identité, mais au contraire, de la supercherie d'identité. Ça gêne, au contraire, l'identification des individus. Et il y a cette idée que, finalement, les pauvres tricheraient avec leur identité et toute la littérature de la gueuserie qui est importante en Italie à cette époque, que je me suis amusé à aller lire, montre très bien qu'il y a des faux mendiants, il y a des voleurs, etc., qui n'hésitent pas à recourir à cet usage ponctuel de la barbe pour, en quelque sorte, masquer leur identité. Du reste, il ne faudrait pas limiter cette question policière du regard et de l'identification aux seules catégories les plus modestes. Puisqu'en effet, vous avez là un portrait de Luther. Ça n'est pas le portrait le plus habituel de Luther dans la mesure où il est resté dans la postérité sous l'image d'un homme plutôt glabre. C'est même l'iconographie officielle qui a été reprise. Or là, c'est un moment très intéressant puisque c'est un tableau de Cranach qui représente Luther en Junker George, c'est-à-dire en chevalier George, dans un moment très précis. Il vient d'être mis au banc de l'Empire et il se réfugie dans le château de son protecteur, le prince de Saxe, et il se laisse pousser la barbe. Il n'a pas encore défroqué, donc ça n'est pas parce qu'il va se marier ou qu'il va se défroquer, c'est plus tard. C'est véritablement, pendant un temps, une volonté de se soustraire, alors qu'il est en cavale en quelque sorte, de se soustraire à son identité ordinaire. Et puis, c'est en même temps apparaître comme un Junker et donc éventuellement bénéficier d'une présomption d'identité de chevalier avec les droits liés à la chevalerie dans l'Empire. Deuxième vague de législation, deuxième ensemble de législation, c'est l'édit qui est pris en 1536 par François Ier, que j'ai aussi publié dans le livre parce qu'il est rare de trouver le texte. Qui est cette fois-ci un édit qui relève pas d'une logique policière mais d'une logique somptuaire. Il entend réserver le port de la barbe aux gens qui sont dans l'entourage du roi, c'est-à-dire les courtisans ou qui servent le roi, c'est-à-dire les soldats. Voilà d'ailleurs pourquoi on ne peut pas dire que François Ier lance la mode de la barbe en France, dans la mesure où il prend même une législation qui empêche cette mode de se diffuser. Et la diffusion sociale, elle se fera plutôt sous le règne d'Henri II et par la suite. Il y a donc, vous voyez, derrière l'affirmation d'une autorité, il y a aussi l'idée que la barbe, eh bien, est un signe de distinction sociale. Et d'ailleurs, l'exploitation des lettres de rémission par exemple, Robert Muchamblay, l'exploitation des tableaux, de la littérature, laisse à penser qu'il faut attendre dans certaines régions la fin du XVIe siècle, notamment dans l'Artois. À Paris, c'est un peu plus précoce. Il faut attendre la fin du XVIe siècle pour que l'on constate que toutes les catégories sociales de la population se sont mis à porter barbe. À l'origine, la barbe a été adoptée aussi comme un signe de distinction sociale. Et cette distinction, d'ailleurs, a un coût, puisque les livres de pharmacie, les livres montrent que la taille, les onguents, les parfums de la barbe coûtent relativement cher. A contrario, d'ailleurs, certaines catégories de la population se voient infligées, notamment au moment où la barbe commence à se répandre dans l'ensemble de la société, dans la deuxième moitié du XVIe siècle ou à la fin du XVIe siècle, la barbe, ou la privation de la barbe, va caractériser des populations que l'on souhaite, en quelque sorte, marquer d'infamie et repérer. C'est le cas des galériens, qui sont systématiquement rasés, pas seulement pour des questions d'hygiène, mais aussi parce que dans une société où la pousse du poil est devenue quelque chose d'assez généralisé, eh bien, c'est un moyen d'identifier le galérien en cavale. La barbe, donc, vous voyez, est entrée comme un critère de signalement. À l'origine, le pouvoir royal municipal a été, surtout municipal d'ailleurs, a été contrarié par l'apparition de la barbe, parce que ça perturbait les modes d'identification des individus. À partir du moment où elle s'est généralisée, la barbe est devenue non plus quelque chose de factice, mais un marqueur de signalement des individus. Je me suis intéressé par exemple à la littérature de la physiognomonie. Vous savez, c'est une fausse vieille science qui prétend, à partir de traits de la physionomie, essayer de trouver des tempéraments et des caractères. Force est de constater tout d'abord que c'est un corpus qui vit beaucoup sur la répétition de ce qui a été écrit dans l'Antiquité. Or, puisque une partie de l'Antiquité romaine ignorait le port de la barbe, on ne trouve pas grand-chose sur la barbe dans les traités les plus anciens. Il n'en demeure pas moins que les traités qui ont été faits au XVIe siècle, au-delà de la compilation des textes les plus anciens, ont accordé de plus en plus de place à la barbe, avec cette idée quand même que la bonne barbe, celle du type à qui on peut faire confiance et qui est en bonne santé, c'est la barbe noire épaisse, qui est le signe d'une bonne nature, d'une bonne santé, alors que la barbe qui est frisée, qui est chétive, qui n'est pas d'une couleur homogène, signale éventuellement la maladie ou alors la perversion. Mais ceci étant, on sent très bien que la littérature physiognomonique réfléchit par exemple beaucoup plus sur la pilosité du dos ou des pectoraux que sur la pilosité faciale. Parce que s'attache l'idée que la barbe masque une partie des caractères. Ça n'est pas en fait dans la physiognomonie qu'il faut chercher un discours sur la capacité qu'a la barbe d'informer l'observateur sur les tempéraments. Parce que la physionomie réfléchit surtout sur des caractères généraux. Or, le souci des autorités et de la police d'avant la police, si vous voulez, celle qui est pratiquée par les villes, celle qui est pratiquée par le Parlement, c'est l'identification des individus particulièrement, et non pas l'identification ou le repérage de caractères généraux. Alors, je me suis tourné cette fois-ci vers les moyens qu'on avait de signaler les individus au XVIe siècle. Pour cela, j'ai pris, c'est d'ailleurs Marc Venard qui m'avait dit, va regarder là, les premiers registres des synodes nationaux, les délibérations des synodes nationaux, lorsque les protestants obtiennent la possibilité d'avoir une organisation nationale. Or, à la fin de chacun de ces synodes nationaux. Les textes ont été édités au XVIIe siècle. Le synode national dresse une liste de ce qu'on appelle les coureurs. Les coureurs, c'est les pasteurs qui vont se trouver interdits par le synode national d'être embauchés par tel ou tel consistoire. Eh bien, les coureurs sont systématiquement identifiés par leur âge, leur nom, la couleur de leurs yeux, la forme de leur visage, la forme de leur barbe, la couleur de leur barbe. Comme si finalement, la barbe était devenue quelque chose qui était complètement consubstantiel à l'individu et que, au contraire, on était persuadé que quelqu'un qui voudrait se faire embaucher alors qu'il est en quelque sorte interdit, il ne lui viendrait pas à l'idée de se raser pour se faire passer en quelque sorte à un autre. Quand vous prenez d'ailleurs la question de l'affaire Martin Guerre, il y a eu à un moment une interrogation, on interroge la femme, mais sa barbe, et elle dit « mais moi j'étais mariée trop jeune, il est parti trop jeune, il n'avait pas encore de barbe ». Quand on prend les sommiers de l'Inquisition espagnole, on s'aperçoit que c'est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on s'aperçoit que c'est aussi un critère qui a été retenu pour identifier les individus. Et j'ai aussi pris, et c'est le dernier corpus, le signalement des bagnards. Étant originaire de Brest, j'y vais de temps en temps, et on a aux archives de la marine à Brest la matricule des bagnards après 1748, lorsque les bagnes sont créés pour se substituer aux galères. Alors c'est intéressant parce que nous sommes au XVIIIe siècle. La société est devenue une société glabre. Les bagnards continuent d'être rasés. Et néanmoins, dans les fiches de police, dans les fiches signalant, dans la matricule du bagne, on a par exemple la matricule de Vidocq, qui a commencé comme bagnard, eh bien, on mentionne la couleur de la barbe des individus, alors qu'ils sont rasés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que un bagnard qui s'échappe dans une société qui est redevenue glabre au XVIIIe siècle va avoir sa barbe qui va repousser. On ne se rase pas soi-même au XVIIIe siècle. C'est une pratique, le premier roi à se raser lui-même, et encore il se taille partout, c'est Louis XVI, et c'est une pratique qui est très peu développée, parce que les rasoirs ne sont pas faits pour ça, qu'on n'a pas forcément des miroirs, bref, on ne se rase pas soi-même. Donc le bagnard qui est en cavale, très vite il va être identifié par le fait que la barbe va lui repousser, et que les fiches de signalement permettront d'identifier la personne. Sachez que pour un bagnard qui s'échappe de Brest, Philippe Le Charnoux l'avait montré, à partir du moment où il a des chances d'être pris dans la région Bretagne. Après, quand il a franchi la Bretagne, il s'égaye dans la nature et on ne le retrouvera pas. En tout cas, vous voyez que la barbe, qui au début du XVIe siècle, lorsqu'elle apparaît, suscite une inquiétude parce qu'elle masque une identité, devient au contraire un critère, je dirais presque somatique, de l'individu, des personnes. Et on voit très bien, vous prenez les mémoires de Cardan, à un moment donné, il se décrit lui-même, il décrit sa barbe. J'ai trouvé aussi le cas d'un musicien anglais qui, à un moment donné, estime qu'il faut qu'il le refasse faire son portrait parce que la forme de sa barbe et la couleur de sa barbe ont changé. Vous voyez qu'il y a là un basculement, en quelque sorte, entre il s'est produit quelque chose dans le regard et la manière d'identifier les autres. Alors, après ce rapport entre barbe, identité individuelle et identité sociale, je voudrais aborder le deuxième point, le rapport entre barbe et genre, qui est aussi une question qui a été débattue à l'époque. Le plus souvent, on dit que la barbe, c'est ce qui distingue l'homme de la femme. C'est une affirmation, en général, la barbe fait l'homme, etc. Bon, alors évidemment, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Est-ce que c'est un simple sexe anatomique? Est-ce que c'est au contraire un genre? Ce qui est certain, c'est que la barbe jette le trouble dans ce partage des sexes. N'oubliez pas, ça je rappelle, mais où j'évoque pour le livre important de Lacœur sur la fabrique du sexe, qui montre bien que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le modèle qui a prévalu pour distinguer les hommes et les femmes n'était pas un modèle de type anatomique, mais de type humoral. C'est-à-dire que ce qui distinguait les hommes et les femmes, c'est que la femme était froide et humide, et ce qui faisait l'homme, c'était un tempérament, une humeur chaude et sèche. Et on était persuadé qu'il y avait, c'était ça la principale raison, la principale différence, et que pour le reste, au niveau de l'appareil reproductif, il y avait en quelque sorte une identité inversée de la matrice féminine et des organes masculins. Et il montre, il a un dossier, et il montre que finalement c'est au XVIIIe siècle qu'on prend vraiment conscience d'une théorie qui jusqu'à présent était restée minoritaire, qui est que ce qui radicalement distingue l'homme de la femme, c'est la nature des organes qui n'ont pas du tout en même, les mêmes fonctions et que ça n'est pas l'inverse de l'autre. Et vous savez qu'aujourd'hui, finalement, la distinction, elle n'est plus entre les sexes anatomiques, parce qu'à la rigueur, vous pouvez vous les faire enlever. Aujourd'hui, l'identification des individus, enfin du sexe des individus, relève du patrimoine chromosomique et non plus tellement de l'anatomie. Alors, la barbe. Quel rôle peut-elle jouer dans la distinction des sexes? Eh bien, je dirais que la barbe jette le trouble dans le sexe. Pourquoi? Pour trois raisons. Tout d'abord, parce que vous avez la question des hermaphrodites qui est largement débattue à l'époque. Deuxièmement, parce que vous avez des femmes à barbe. Et que troisièmement, vous avez des jeunes hommes qui n'ont pas de barbe. Et donc, la question de la distinction des sexes va tourner autour de la barbe. La question des hermaphrodites. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des individus qui ont deux sexes en même temps, avec soit une prévalence plutôt masculine, ce qu'on appelle l'androgyne, soit une prévalence plutôt féminine, c'est ce qu'on appelle les gynandes. L'idéal, ce serait d'avoir des hermaphrodites parfaits. Mais dans la nature, il est difficile d'en trouver. L'Église, d'ailleurs, qui considère que ce qui fait le mariage, c'est le consentement mutuel, n'aurait rien en théorie contre le mariage des hermaphrodites. Il y a d'ailleurs des mariages d'hermaphrodites à Rome. Le problème, c'est que l'Église se tourne toujours vers les médecins pour dire « Mais alors, dans ce couple, qui va faire l'homme? Qui va, en quelque sorte, faire la femme ?» Et c'est à partir de ces cas, en quelque sorte, posés médicalement, juridiquement, par les situations, eh bien, que l'on en est à évoquer eh bien, la question de la barbe dans l'hermaphrodite qui sera plutôt homme ou plutôt femme. Quelques cas que je voudrais évoquer et qui sont sans cesse répétés dans la littérature médicale. L'un, c'est tiré d'un médecin portugais qui rappelle que au Portugal, dans les années probablement 1530-1540, une certaine Maria Pacheca, qui était née femme, qui avait été baptisée comme femme, est devenue Manuel. On l'a donc, c'est devenu un garçon, avec une verge, mais pas de barbe. Il n'y a pas eu rebaptême, parce que la formule baptismale, d'un point de vue liturgique, n'est pas genrée. Mais en revanche, il y a eu une simple bénédiction. Bon. Donc voilà quelqu'un qui était femme, qui devient homme, sans barbe, mais avec une verge. Montaigne, qui a accordé dans ses essais, dans son voyage en Italie, qui a décrit un certain nombre de cas, qu'il a même été voir, décrit en Guyenne un pâtre qui est très barbu, mais qui... Alors, il est très barbu, il désire les femmes, mais lui, il n'a pas de sexe d'homme. Enfin, le cas le plus célèbre, c'est le cas d'une gardienne, non pas enfin, une gardienne de moutons, oui, du côté de la Champagne, pas très loin de la Lorraine, c'est pas Jeanne d'Arc, c'est Marie. D'ailleurs, Jeanne d'Arc, c'est intéressant, parce que Jeanne d'Arc, c'est quand même, si je voulais être provocateur, le plus célèbre des travelots de l'histoire, puisque finalement, elle n'a pas changé de... Alors, je vous renvoie au livre de Stenberg, elle n'a pas changé de sexe, mais elle a changé de genre. C'est bien ce qui lui est reproché. Alors, Marie, c'était une gardienne de cochons. Un jour, elle court derrière ses cochons ou ses moutons, et en sautant sur un fossé, un sexe masculin lui pousse, et la barbe lui pousse en même temps. Du coup, d'ailleurs, Marie va devenir Germain. Et Montaigne, lorsqu'il se rend en Italie, fait le détour pour aller voir ce mari devenu Germain. Donc, vous voyez qu'à travers ces cas, je ne vais pas développer plus que ça, mais il y aurait ensuite le cas très célèbre des affaires qui ont lieu à Rouen dans les années 1620, 1610, 1620, le nom m'échappe, mais où justement vous avez comme ça deux androgynes qui veulent se marier. Il y a une polémique entre les médecins royaux. Le Parlement condamne d'ailleurs le couple à mort parce qu'il y aurait eu en quelque sorte. Et il y a tout un débat et on voit très bien que la barre n'est pas ce qui va véritablement permettre de dire si on est en présence d'un homme ou d'une femme. Donc déjà, la question des hermaphrodites pose le problème de la pertinence de ce critère pour distinguer les sexes. Deuxième cas qui se pose, c'est le problème des femmes à barbe. Alors ces femmes à barbe, vous en avez plusieurs cas. Vous avez ici un tableau qui est conservé au château de Blois, qui est d'Antonietta Lavinia et qui représente Antonietta González. Alors en fait, cette jeune fille, comme ses sœurs d'ailleurs, sont atteintes de la même maladie que leur père, qui était Pedro González, qui était atteint d'hypertrichosis universalis. On a repéré dans l'histoire de l'humanité une cinquantaine de cas de gens comme ça qui sont couverts de poils partout. Bon, je reviendrai sur ce cas parce que cet homme venait des Canaries. Mais lui, c'était un sauvage totalement hirsute. C'est pour ça qu'on l'avait offert, jeune enfant, à Henri II, il émarge d'ailleurs dans les contes, c'est le sauvage du roi, dans les contes de Catherine de Médicis, et comme ça. Et puis ensuite, il va, sa famille va s'installer, être protégée pendant les guerres de religion. Lorsque Farnèse arrive à Paris, les filles vont être envoyées, mariées, à Parme, puisque le duc Alexandre de Parme, Alexandre Farnèse, est duc de Parme. Et donc, ces tableaux de ces jeunes filles vont faire un peu le tour et vous voyez, ils vont être possédés. On va se partager ces filles, en quelque sorte. On veut les avoir à la cour. Et puis, les tableaux circulent dans les cabinets de curiosité. Autre cas de femme à barbe très, très célèbre, c'est le cas de Magdalena Ventura, qui a été peinte par Ribera. Alors, quand vous ouvrez le net, quand vous allumez Internet et que vous cherchez Magdalena Ventura, vous trouvez des analyses qui font en quelque sorte de cette femme une sorte d'icône queer. D'icône queer actuelle, parce que finalement elle subvertit tous les genres. C'est une femme qui allait, qui a une grande barbe, qui est représentée frontalement, son mari est derrière. Enfin, pour les queers, il y a là en quelque sorte une sorte de figure qui pourrait illustrer la culture underground, en quelque sorte, du XVIIe siècle. Alors, pour ça, il faut quand même. Vous voyez, il y a une pierre sur le côté, et il y a une longue inscription latine que je me suis amusé à traduire. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce... On voit une femme, à poil, mais très habillée, enfin avec beaucoup de poils, vêtue en femme, qui visiblement est âgée et qui allait un enfant. La scène de ce côté-là est probablement rétrospective, je veux dire par là qu'elle a eu cet enfant plus jeune, mais en tout cas, cet allaitement souligne qu'elle est véritablement femme, qu'elle ne subvertit pas même le rôle de la femme qui est, pour l'époque, de donner des enfants et de s'occuper des enfants, et un peu en retrait, son mari, qui, lui, est aussi barbu et moustachu, à la mode de ce temps-là, mais finalement quand même nettement moins barbu. Alors, que dit la citation ? Un grand prodige, miraculum, de la nature, Magdalena Ventura, de la ville d'Acumuli chez les Samites, ça c'est le côté, il faut faire antique, communément appelé les Abruzes, dans le royaume de Naples. 53 ans, elle est représentée à 53 ans, mais qui à 37 ans commença à devenir chevelue et une barbe lui poussa si longue et si épaisse qu'elle ressemble plus à celle d'un quelconque maître barbu, toujours ce rapport entre autorité et barbe, alicuius magistri barbati, à un quelconque maître barbu, qu'à celle d'une mère à qui son mari, Felici de Amici, qui est derrière, a donné 3 enfants. Ce que tu vois a été peint de visu par Joseph de Ribera, espagnol de l'ordre de la Croix du Christ, autre appel de son temps, sur ordre de Ferdinand II, troisième duc d'Alcala, vice-roi de Naples, le 16 février 1631. Alors ce tableau, il a été exposé donc dans la collection du vice-roi, des ambassadeurs l'ont vu, donc vous voyez, on est dans la culture de cour, et pas du tout dans une culture en quelque sorte underground. Cette femme, donc, elle allait. Il n'y a pas d'indétermination du genre social, mais il y a simplement une indétermination de la nature. Il y a un trouble là, effectivement, puisqu'on a une femme qui allaite, mais qui en même temps est très barbue. Donc, voyez, deuxième problème, hein, si c'est la barbe qui distingue l'homme et la femme, alors vous avez des hermaphrodites, on n'arrive pas à savoir à partir de la barbe s'ils sont plutôt hommes ou femmes, chair ou poisson, comme on dit, et ici, eh bien, on a des femmes à barbe qui sont ouvertement femmes et ouvertement barbues. Dernier point, enfin, il y a tous ces hommes qui n'ont pas de barbe. Et là, c'est évidemment lié aux âges de la vie. Les hommes de l'époque ont beaucoup réfléchi sur quels sont les âges de la vie, et ça n'est pas seulement des réflexions un peu théoriques. Est-ce qu'il faut découper les âges de la vie de 10 ans en 10 ans? Est-ce qu'il faut découper les âges de la vie en 3 ou 4 étapes? Le système des tontines, par exemple, qui a été inventé par un Italien et qui est mis en place, un système de crédit rente, eh bien, repose sur les âges de la vie. Alors, on est attentif pour délimiter les âges de la vie, eh bien, à l'apparition de la barbe, de la première barbe, ce qu'on appelle d'un terme latin le lanugo, et ça devient vraiment un critère, en quelque sorte, du cursus aetatis. Par exemple, dans l'Empire ottoman, vous savez, les jeunes hommes sont soumis à une sorte de décimation, ce qu'on appelle le defshirme, c'est-à-dire ils sont recrutés, les jeunes chrétiens des Balkans sont recrutés pour servir comme janissaires ou dans le sérail, eh bien, le port ou pas de la barbe est un critère de sélection, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient de lanugo. S'ils ont du lanugo, ça veut dire qu'ils ont entré dans un âge qui les mène à l'adolescence et ensuite à l'âge viril, puisque finalement, l'âge idéal, c'est l'âge viril. L'âge viril, c'est 35 ans, c'est-à-dire c'était à peu près l'âge du Christ. C'est l'âge intermédiaire qui est paré finalement des vertus de l'honnête médiocrité. Médiocrité n'étant pas ce que ça signifie chez nous. C'est un âge équilibré entre la fougue de la jeunesse et puis la froideur de la vieillesse. C'est en quelque sorte les adultes, l'âge viril, c'est l'âge idéal. Et dans le monde musulman, on trouverait les mêmes choses. Les jeunes hommes ont le droit de porter que moustache. La barbe vient au moment du mariage. Alors, cette idée que la barbe est un critère, et c'est là que je voudrais en venir, c'est moins un critère de distinction entre l'homme et la femme. La barbe, c'est un enjeu de distinction des masculinités, c'est-à-dire de la masculinité juvénile et de la juvénilité de l'âge viril. Alors, je vous passe sur toutes les théories médicales qu'il peut y avoir derrière. Je vous renverrai simplement au théâtre de Shakespeare, dans lequel vous avez d'innombrables allusions à la signification de la barbe. Par exemple, beaucoup de bruit pour rien, hein, qui est créé en 1599. Béatrice, qui est une femme, dit qu'elle veut quelqu'un qui... Elle veut pas d'un vieux, donc elle veut pas de quelqu'un qui a une trop grande barbe, mais elle veut pas non plus de quelqu'un qui n'a pas de barbe, parce qu'elle veut pas épouser, comme elle dit, a waiting gentlewoman, c'est-à-dire une sorte d'âme d'atour. Ce qu'elle veut épouser, c'est un jeune homme, à la fois viril, mais en même temps pas vieux. En fait, et je pourrais vous renvoyer, vous trouverez des allusions à la barbe dans As You Like It, vous trouverez dans Troïl et Cressid, vous trouverez dans Peine d'amour perdue, etc., des références, en quelque sorte, à l'inscription de la barbe dans les âges de la vie masculine. Et lorsque vous prenez les lettres des rémissions, lorsque vous prenez les conflits, par exemple, autour des Mignons et de Ronsard, vous apercevez que très souvent, la barbe sert moins à distinguer les sexes que, finalement, des hommes d'âge différent. Le combat entre les jeunes et les vieux, eh bien, il passe par l'affichage ou pas de la barbe. À Oxford, par exemple, des jeunes gens veulent aller boire dans une taverne. Parce que boire, c'est en quelque sorte s'intégrer dans la masculinité. Eh bien, que font-ils? Ils ne peuvent pas rentrer dans les tavernes. Donc, ils se mettent des barbes postiches pour pouvoir rentrer. Ils se voient refuser le baiser avec la servante. Ils organisent une rixe. Le guet arrive. Enfin, bref, on a des choses comme ça. Le duc d'Enghien, à la bataille en 1544, j'ai oublié le nom de cette bataille, il est face à Del Vasto, le marquis Del Vasto, qui commence à être un peu âgé. Et à un moment donné, Del Vasto est un peu méprisant, jeune prince du sang, là qui est encore trop jeune, et l'autre lui dit que la valeur en quelque sorte d'un sabre ou d'une lance n'attend pas la pousse de la barbe. Donc on a, et on retrouverait la même chose chez Napoléon. Napoléon un jour voit un jeune homme qui lui réclame la Légion d'honneur. Napoléon dit « t'es trop jeune, t'as pas la barbe », et il dit « hier, c'était pas ma barbe qui, c'était pas une barbe qui dirigeait la charge ». Donc, si vous voulez, c'est ce à quoi j'ai abouti, c'est que la barbe, c'est moins une question entre les hommes et les femmes qu'une question à l'intérieur des hommes. Dernier point que je voudrais voir dans le quart d'heure ou les 10 minutes qui me restent, c'est le rapport entre barbe, religion et race. Car la masculinité, elle se décline selon les âges, elle se décline aussi selon les statuts sociaux. La masculinité d'un clerc, la masculinité d'un Européen par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, la masculinité dans telle ou telle religion se décline différemment. Alors, rapidement, tout d'abord, au XVIe siècle, a été déclarée une guerre aux rasés. C'est le nom d'un texte anonyme dont on ne conserve que deux versions, une aux États-Unis et l'autre à Aix, un texte anonyme qui paraît en 1562 et qui déclare la guerre aux rasés, c'est-à-dire au clergé catholique. Les protestants, vous savez, les pasteurs, mais aussi les fidèles, arborent de grandes barbes, et face à ça, le clergé catholique apparaît comme glabre. Cette guerre aux rasés, d'ailleurs, elle n'est pas seulement déclenchée par les protestants contre les clercs catholiques. Quelques années plus tard, lorsque l'union de Brest se fait en Pologne, c'est-à-dire qu'une partie du clergé orthodoxe décide de rallier Rome, tout en conservant sa liturgie, etc., eh bien, on s'aperçoit que les orthodoxes acceptent mal ça, ils acceptent toujours mal d'ailleurs, et il y a des rixes entre les orthodoxes, notamment les cosaques, et puis les clercs uniates. Et l'un de leurs premiers martyrs à ces uniates, c'est Saint Josaphat, eh bien, on s'en prend à la barbe, on lui arrache avant de le jeter dans le Dniepre. Ce sera un enjeu important. Les orthodoxes ont une barbe, ils entendent la défendre face au clergé catholique. Vous voyez la rencontre hallucinante entre le jésuite Possevino et Yvan le Terrible, dans lequel Yvan le Terrible dit à Possevino, mais pourquoi vous les catholiques, vous avez renoncé à votre barbe? Alors l'autre dit, mais les papes, ils ont de la barbe, etc. Enfin bref, c'est un enjeu important, et ça le sera jusqu'à ce que Pierre le Grand, en 1704, je crois, interdise aux orthodoxes de porter la barbe dans l'entreprise d'occidentalisation de la Russie. Alors il y a cette idée que le clergé catholique serait finalement féminisé, il serait glabre comme les femmes, et ensuite il serait glabre parce qu'il est complètement asservi, complètement esclave, complètement bagnard ou galérien en quelque sorte du pape. Alors ça pose la question de savoir qu'en est-il de ces rasés, ce clergé catholique. Alors il y a tout un débat parce que en 1500, je vous ai dit tout à l'heure, en 1510 le pape décide de se laisser la barbe, puis il la rase. Léon X, Clément VII, Adrien VI restent rasés. Vient le sac de Rome. Au moment du sac de Rome, le pape Clément VII se laisse pousser la barbe, une longue barbe, mais lui ne va plus jamais se la raser, comme aucun pape. Les papes, suivant la mode des princes européens, il faut attendre 1700 pour avoir un pape qui n'ait ni moustache ni barbe, et depuis d'ailleurs plus aucun n'en a porté. Mais cette mode qu'adopte le pape, qui se prétend être le père romain des princes chrétiens, il n'entend pas qu'elle soit suivie par les prêtres. Et donc, dès les années 1529, il y a un débat à Rome, est-ce que les prêtres doivent ou non se raser? Et c'est dans ce contexte que Valeriano écrit cet ouvrage, qui va avoir pas mal 5 éditions latines, en France, aux Pays-Bas, etc., et dans lequel il prend la défense pour Valeriano, qui est un humaniste, le prêtre est un homme d'autorité, il doit porter la barbe. En fait, ce n'est pas le modèle qui va être retenu par la contre-réforme catholique, qui va suivre le modèle plutôt de Saint Charles Borromée. Tout d'abord, il y a un problème d'érudition et en même temps de droit. Tout part du concile de Carthage, qui est un concile du 5e siècle, et certains disent que dans ce concile de Carthage, il est écrit « Clerici neque comam nutrian, neque barbam », c'est-à-dire les clercs ne devront pas, nutrian, entretenir leur chevelure comam, ni leur barbe. Or, d'autres manuscrits disent « Les clercs ne devront pas nourrir leur chevelure, nekwe barbam radat, ni raser leur barbe. » Et donc, toute la polémique érudite tourne autour de cette interpolation ou de cette conformité. Voilà. Alors, on en est sur ce débat humaniste. Vient là-dessus le Concile de Trente, qui ne statue pas sur la question, à la différence du Concile de Latran IV. Et vient le Concile de Milan, celui qui est tenu par Saint Charles Borromée et qui va servir de modèle à tous les conciles provinciaux et les synodes dans la chrétienté. Que nous dit Borromée? Il nous dit que c'est moins le port de la barbe qui est interdit dans l'Église que le soin excessif que l'on prend d'elle. D'autre part, ce qui dit, à la rigueur, vous avez une barbe mal rasée, ça passe, mais surtout pas de moustache, parce qu'il ne s'agit pas que la moustache trempe dans le calice. En effet, pour les théories médicales de l'époque, le poil est un excrément. Alors, il ne faut pas que l'excrément trempe dans le sacrement, en quelque sorte, c'est-à-dire dans le calice. Et Borromée va encore préciser sa position en 1576 dans une lettre qui va être diffusée des Barbares à Nana, dans laquelle il justifie pourquoi le clerc ne doit pas avoir de barbe. Hein, il estime que, tout d'abord, abandonner sa barbe, c'est un signe d'humilité. Il estime ensuite que la barbe, c'est un attribut du laïcat. Et la contre-réforme catholique, elle entend vraiment faire du prêtre quelqu'un qui se distingue par l'habit, par l'habitat, par les mœurs, y compris par l'apparence extérieure, et notamment le glabre, et bien des coutumes séculières. Voilà ce que dit Borromée, je traduis, « Nous restaurons notre antique usage de raser la barbe avec cette vraie résolution qu'en l'abandonnant, nous délaissons désormais aussi toute ostentation et vaine confiance dans la sagesse et dans la force mondaine, et toute estime de nous-mêmes et tout autre orgueil. En méprisant cet ornement commun du visage, nous renonçons aux vains ornements et gloires des hommes. » Alors ce qui est intéressant, c'est que Borromée n'est pas seul à prendre cette disposition. J'ai repéré près de 70 synodes, un quart des diocèses français à peu près vont statuer sur la question du port de la barbe des clercs. Et on a comme ça partout, en Italie, en Espagne, des statuts synodaux qui publient là-dessus. Et ça pose la question de clercs, ça va même toucher les chantres dans les chapelles. Hein, par exemple, l'évêque de Tournai, en 1564, interdit aux prêtres et même aux chantres qui participent à l'office d'avoir une barbe. Et du coup, il y a un certain nombre de choristes qui préfèrent quitter l'Église plutôt que de devoir rester glabre alors que la société est en train de devenir une société barbe. Ceci étant, on est obligé en même temps de constater que un certain nombre de clercs portent la barbe en dépit de cette idée qu'ils doivent être rasés. C'est tout d'abord les ermites, la tradition érémitique. Les Capucins, par exemple, qui sont nés dans l'entourage des Camaldules, ont, dès la bulle de création par Clément VII, ont le droit de porter la barbe, au point d'ailleurs nous, on les a retenus sous le nom de Capucins, c'est-à-dire le vêtement a fini par désigner l'ordre. Au Portugal, ils sont désignés comme des barbus. Donc la barbe du Capucin est un signe de son... Donc cela, c'est l'érémitisme. Autre clerc qui porte la barbe, c'est les missionnaires. Les missionnaires, les jésuites qui vont en Chine, se laissent pousser la barbe pour être en quelque sorte comme les mandarins. Ils ont parfois du mal à se la couper lorsqu'ils reviennent en Europe. C'est important parce que finalement, les pères blancs au XIXe siècle aussi auront la barbe. Le clergé occidental en Europe sera glabre, mais quand il part dans d'autres pays en mission, il porte la barbe. Et puis le pape va porter la barbe ainsi que les prélats qui sont rattachés à la cour. En effet, une des raisons pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet, c'est que j'ai trouvé une dizaine de lettres écrites par François Ier ou Henri II, demandant à ce que les évêques qu'ils nomment depuis 1516, en vertu du Concordat de Bologne, puissent entrer dans leur cathédrale en portant la barbe. Des chanoines, ou désignés par le roi, ou des évêques désignés par le roi. Alors qu'en général, Duprat, par exemple, il arrive à Clermont, que font les chanoines? Ils sortent avec les statues, et ils disent, et avec statue et rasoir, ils disent, si tu veux rentrer dans ta cathédrale, eh bien, tu te rases. Et quelle est l'argumentation qui est toujours retenue par le roi pour défendre les chanoines qu'il a nommés? C'est que on a besoin de ces gens-là pour être à la cour, parce qu'ils sont précepteurs de mes enfants, parce que je vais les envoyer dans des cours étrangères comme prélat d'État et comme ambassadeurs. En tout cas, vous voyez que vous avez une partie des clercs qui sont rasés, mais on ne peut pas dire que ce soit généralisé, et c'est pour ça que je suis un peu réticent devant l'usage de l'idée de castration symbolique, parce que le clergé catholique est tenu à la chasteté, mais pas à la castration. D'ailleurs, le Lévitique interdit la castration. En fait, lorsqu'on parle de castration à propos de ces clercs qui sont rasés, c'est pour, dans la rhétorique traditionnelle, les amalgamer à des impuissants ou à la molitia antique. Alors, puisque je viens d'évoquer l'émission, je voudrais terminer par un dernier point très bref sur le fait que la barbe a aussi été un moyen de classification raciale, des identités de race et pas seulement religieuses. Je vous ai montré tout à l'heure le portrait de Pedro González. Il y a eu un livre d'un Italien dont le nom m'échappe sur cette famille. Il a pisté véritablement les traces de cette famille. Comment s'imagine-t-on le sauvage à la fin du Moyen-Âge? On se l'imagine comme étant velu, hirsute, l'homme des bois, l'homo silvestris. Et ce jeune enfant qui a été offert par les marchands rouennais à Henri II et qui vient des Canaries, des îles qui ont été conquises après l'Amérique. La conquête des Canaries, c'est 1497. Pour un roi de France qui n'a pas d'Amérique, avoir un sauvage hirsute à la maison, à la cour, c'est une manière de posséder l'Amérique. Et donc cet individu, il est intéressant parce qu'il reflète l'imaginaire que les Européens se font de ces Indiens d'Amérique. On se les imagine velus comme des bêtes. Au point d'ailleurs que André Tévé et Jean de Léry, qui ont tous deux raconté leur voyage, vont carrément, dans leur histoire de la France antarctique, mettre un chapitre qui est comment les sauvages ne sont pas velus. Les sauvages, au contraire, s'épilent. Ils sont beaux, en bonne santé, ils s'épilent, ils n'aiment pas le poil, parce que tout simplement, le poil, ça leur rappelle le monde animal. Donc, première chose, en Europe, la découverte de l'autre passe par la remise en cause d'un préjugé, qui était que l'Indien, le sauvage, devait être forcément velu. En même temps, se forge en Amérique l'idée que les Européens seraient barbus. Alors que Christophe Colomb, quand il est arrivé, il portait probablement pas barbe. Il y avait un barbier, d'ailleurs, à bord, barbier chirurgien, à bord des trois galions, j'ai vérifié. Et en fait, cette idée que les dieux Quetzalcoatl, etc., seraient des dieux barbus et qui auraient pu être identifiés avec les Européens. On sait aujourd'hui que ce sont des légendes qui ont été bien retravaillées par les franciscains. Et il ne faut pas croire que les Indiens ont été tétanisés par la barbe des Européens. J'ai des cas où les Indiens s'en prennent ouvertement, aussi bien au Canada qu'au Brésil, aux barbes des Occidentaux. Donc, première étape, on découvre que l'autre, finalement, n'est pas barbu tel qu'on se l'imaginait. Deuxième étape, c'est cette idée que, puisque l'autre n'a pas de barbe, il serait imberbe. Et Pierre Ragon a insisté comment, après la phase de conquista, au cours de laquelle les premiers voyageurs avaient été totalement indifférents à l'absence ou pas de pilosité des indigènes, on s'aperçoit qu'on a un processus de naturalisation du caractère imberbe des Indiens. C'est-à-dire qu'on féminise progressivement l'Indien pour le rendre, nous dit Pierre Ragon, valétudinaire, faible, finalement il est indolent, et il est indolent parce qu'il est comme une femme, ça permet d'expliquer la dépopulation de l'Amérique. Il serait indolent aussi, il manquerait de virilité, ces Indiens. Donc ils ne travailleraient pas assez, ils ne feraient pas assez d'enfants, et puis en même temps, ça permettrait d'expliquer pourquoi les femmes indiennes doivent se précipiter dans les bras des Blancs, parce que eux, évidemment, ils ont une barbe et ils ont une vigueur sexuelle importante. Ça, c'est l'image de l'Indien que Pierre Ragon a décrit. Mais il l'a décrit à partir d'un livre d'un médecin qui était envoyé par Philippe II en Amérique, qui s'appelle Gregorio Garcia, sur les origines des Indiens du Nouveau Monde. Or, quel est l'objectif de ce médecin? C'est d'essayer de se poser la question d'où viennent ces Indiens? À quelle branche de l'Ancien Monde les rattacher? C'est cette logique de filiation, dans le cadre de la monogénèse de l'humanité, qui le conduit à s'intéresser à l'absence ou pas de barbe des indigènes. Alors, par exemple, certains disent les Indiens d'Amérique descendent des Carthaginois, ce qui permettrait d'ailleurs de justifier, puisque Carthage était établie en Espagne, permettrait de justifier, sans avoir à passer par Rome, le fait que l'Amérique appartienne à l'Espagne. Or, il dit, si tel était le cas, les populations carthaginoises, c'est-à-dire du sud de l'Espagne ou éventuellement de l'Afrique du Nord, devraient avoir le même type de pilosité que les Indiens. Ça n'est pas le cas. Donc, il écarte cette hypothèse. Et son hypothèse à lui, c'est de dire que finalement ces Indiens d'Amérique viennent probablement de Chine parce qu'on retrouve le même type de pilosité. voyez donc qu'on est passé de l'Indien velu à cette idée d'un Indien dont on va essayer de voir si la barbe peut être un traceur de filiation. Et c'est là qu'on passe à la troisième étape, au 18e, où on va véritablement faire de la barbe ou de son absence un critère de classification raciale et donc de hiérarchisation raciale. Celui qui lance l'affaire, c'est Buffon, et surtout quelqu'un qui s'appelle De Pau. C'est une querelle qui va avoir un écho, c'est une querelle atlantique. Jefferson va y participer, des jésuites au Mexique vont y participer. C'est finalement ce qu'on appelait la querelle américaine. Pour Buffon, l'Amérique, c'est un continent humide qui dégénère. Qui dégénère d'ailleurs pas de grands animaux en Amérique. Pas d'éléphants, etc. Le monde indien serait un monde petit et qui dégénérerait. Les natifs, en quelque sorte, seraient faits petits, féminins, et donc ils n'auraient pas de barbe. Et c'est sur cette féminisation et cette infériorisation de l'indigène que porte toute cette querelle. C'est une querelle qui agite les sciences sociales, les sciences de l'homme émergentes, puisque Buffon passe quand même pour être un de ceux qui a été un des premiers à étudier l'homme. Et en même temps, et je terminerai par ça, il faut bien voir que dans les sociétés coloniales, enfin coloniales, impériales plutôt, il ne semble pas que les individus aient tenu à se distinguer par le port ou non de la barbe. Je veux dire par là que la classification raciale, là, elle est le fait, de théoriciens de cabinet. En fait, les pinturas de las castas, ce sont une espèce de classification des croisements des individus. C'est-à-dire que sur chaque vignette, vous voyez, vous avez un homme, une femme et l'enfant. Et bon, par exemple, un Espagnol et une indigène, ça donne un mestis. Un métis avec une indienne, vous voyez, à chaque fois, on décline. Ce qui montre qu'on est dans une société raciale, mais où en même temps, on a toujours la possibilité de recombiner l'origine, en quelque sorte, en remontant les choses. Or, en regardant, je me suis aperçu que les Espagnols, tout d'abord, n'ont pas de barbe ni de moustache, et que finalement, les seuls qui aient une trace de moustache et de barbe, ce sont toujours les métis, jamais les Européens, ni non plus, évidemment, parce que vous avez tout, vous avez des Chinois avec les Indiens, ça donne un Cambujo, un Espagnol avec une Maurice, ça donne un Albino. Bref, vous voyez que, au fond, et lorsqu'on prend les enquêtes géographiques qui ont été faites, on s'aperçoit que ça n'est pas un critère qui est pertinent pour distinguer les races de manière empirique. La couleur de la peau est bien plus souvent retenue. Alors que dans les écrits des théoriciens, et ce sera repris encore par Darwin, la question du port ou non de la barbe est un élément important de classification, au même titre presque de la couleur de la peau, même davantage dans la mesure où, à la rigueur, une peau peut bronzer, tandis que si l'on a un tempérament imberbe, eh bien la pilosité ne viendra pas. Donc voilà, en quelque sorte, autour de ce thème barbe et identité, tout ce que je pouvais raccrocher à cet objet filandreux qu'est la barbe. Merci.